Salut tout le monde, nous sommes le Conseil des jeunes de Mulhouse et on se retrouve aujourd'hui pour la pause Chocolat Show. Notre projet consiste à interviewer des personnalités publiques pour qu'ils nous parlent de leur parcours scolaire et professionnel afin d'aider les jeunes et les rassurer dans leur choix d'orientation. Pour y arriver, nous utilisons différents moyens de prévention, donc en plus de notre podcast, nous prévoyons de distribuer des flyers et des squishies auprès des jeunes et plus particulièrement dans les établissements scolaires. Ces dispositifs vont nous permettre d'aider les jeunes face à la pression scolaire mais également au stress du quotidien. Et maintenant, je vous laisse écouter le podcast.
Bonjour Madame le maire, comment allez-vous ?
Bonjour, bonjour à tous, je vais très bien, je vous remercie.
On peut commencer par se présenter ?
Mais avec grand plaisir.
On vous laisse commencer.
Non, je considère que je suis votre invitée ce matin, même si on est dans les locaux de la mairie. Je tiens à ce que vous vous présentiez d'abord, et après je me présenterai si vous voulez bien.
Donc je m'appelle Mickaël, j'ai 16 ans, je suis au lycée Albert Schweitzer. En SMG.
Bien.
Moi aussi, je m'appelle Aïcha Oskan, j'ai 18 ans, je fais des études de droit et maintenant je fais partie du conseil des jeunes depuis 10 ans.
Félicitations.
Bonjour, je m'appelle Coraline Breuil, je suis en études d'ingénieur, j'ai 18 ans et je fais également partie du conseil des jeunes.
Bravo, donc une belle continuité.
Oui, merci.
Très bien. Que faisons-nous maintenant ? Je me présente, c'est ça ? Donc moi, c'est Michel Lutz, j'ai 66 ans. Je suis l'heureux maire de Mulhouse depuis novembre 2017 et je suis en politique depuis 2014. Voilà, je suis ravie d'être dans ce beau service jeunesse qui a été rénové il n'y a pas très très longtemps et qui est bien sûr à la disposition de l'ensemble de nos jeunes qui souhaiteraient venir s'informer, faire des choses. Et puis voilà, je tenais aussi à vous féliciter pour votre engagement parce que c'est un engagement important que vous avez là tous. Et vraiment, je suis ravie parce que ça démontre aussi que Mulhouse, on dit toujours que Mulhouse est une ville jeune, c'est une ville jeune, mais ça démontre aussi que nos jeunes sont capables de rentrer dans un engagement fort. Alors, pas dans un engagement pour la mairie, je tiens à le préciser, mais dans un engagement par rapport aux Mulhousiens. Et donc, se mettre à la disposition des Mulhousiens, faire évoluer la ville de Mulhouse pour les Mulhousiens, je trouve que c'est un engagement très fort et je vous en félicite.
Merci.
Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre parcours scolaire et professionnel ?
Est-ce qu'on a 3 heures devant nous ? Non, je vais résumer. Voilà, c'était le piège. Non, mon parcours. Alors, mon parcours scolaire, j'ai fait une scolarité tout à fait normale. Donc, j'étais à l'école élémentaire, à l'école publique, parce que je crois beaucoup en l'école publique. Non pas que je suis en train de cliver l'école publique et l'école privée, puisque je pense que chaque parent a le choix. Un choix à faire et un choix raisonné à faire. Mais en tout cas, moi, je suis issue de l'école publique et très fière de l'être. Après, je suis allée dans le second degré jusqu'en troisième. Et puis, j'ai commencé à avoir envie d'apprendre un métier. Parce que je sentais que l'école, même si j'ai été, on va dire, une élève convenable avec de bons résultats, je sentais que j'avais besoin de bouger, de faire des choses, d'apprendre des choses. Et donc, j'ai fait le choix, en 1973, de commencer ma vie professionnelle. Comme j'étais un peu trop jeune pour entrer en apprentissage, j'ai fait une année de pré-apprentissage. J'ai enchaîné avec 2 ans d'apprentissage chez un maître d'apprentissage, donc en alternance. J'allais alternativement à l'école et je travaillais dans un salon de coiffure, puisque c'était le métier que j'avais choisi, la coiffure. Et j'ai continué mon métier comme ça, en passant tous les diplômes aussi de l'artisanat, brevet professionnel, le brevet de maîtrise. Je me suis installée en 1985 place Franklin, pas très loin d'ici, de la mairie. Et là, j'ai continué ma vie professionnelle jusqu'en 2016, date à laquelle j'ai vendu mon magasin, puisque j'ai voulu me consacrer moi-même à cet engagement que j'avais pris envers les Mulhousiens. Et ma vie professionnelle, c'était ça. Entre-temps, j'ai fait une petite incursion parce que vous parliez de droit, vous êtes inscrit en droit. Le droit est quelque chose qui m'aurait toujours plu. À l'époque, j'ai été élevée par une maman qui m'a élevée toute seule. Donc, aller faire des études à Strasbourg, la filière droit à Mulhouse n'existait pas encore. Donc, c'était un peu difficile. Donc, il fallait trouver une solution. Ma solution, c'était de faire un apprentissage. Mais néanmoins, j'ai passé une capacité en droit sur 2 ans en cours du soir. Entre-temps, j'ai passé aussi des modules de formation pour être juge consulaire. Alors, tout ça, je l'ai fait en parallèle de mon salon de coiffure, entendons-nous bien. Puis après, je me suis investie aussi dans un engagement plus professionnel. On pourrait appeler ça un engagement de syndicalisme professionnel, mais pas au sens syndicat qu'on connaît. mais professionnelle quand même. Donc j'étais devenue présidente de la Corporation des coiffeurs, présidente départementale. J'ai terminé par être vice-présidente de la Chambre de métiers. Et un jour, ma route a croisé celle de Jean Rottner. Je suis rentrée en politique en fin 2013 pour préparer la campagne de 2014. Et à partir de 2014, je suis devenue donc la première adjointe de l'équipe de Jean Rottner jusqu'en 2017, date à laquelle lui-même est devenu président de la région Grand Est. Et donc, il ne pouvait pas cumuler les deux fonctions. Et donc, j'ai été élue parce que, en fait, c'est pas un passage de flambeau aussi en se disant, tiens, le matin, tu pourrais peut-être être maire à ma place. Donc, il y a un vote qui est fait au sein du conseil municipal et j'ai été élue en novembre 2017. Voilà, et nous voilà en 2024. Voilà, en résumé, un petit peu ma carrière, parce qu'il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais voilà, je vais pas oublier du temps non plus.
C'était très intéressant, vraiment, merci beaucoup. J'ai une petite question. Est-ce que vous regrettez d'avoir arrêté d'être coiffeuse et de vous engager principalement à être maire?
Non, pas du tout, bien au contraire. Il faut savoir quand même que j'ai fait de la coiffure pendant 43 ans. Voilà. Donc j'estime que j'ai abouti une carrière professionnelle. Et au bout d'un moment, ben, on a besoin aussi. C'est comme toute formation, c'est comme tout engagement ou toute profession. On a besoin parfois de faire autre chose dans la vie. L'opportunité m'était donnée de m'engager plutôt au service des Mulhousiens. Vous l'avez compris, quand j'étais présidente de corporation, j'étais engagée pour une profession. Là, je suis engagée pour les Mulhousiens. Donc on est aussi dans une forme d'engagement à l'autre, hein, ou pour l'autre. Et non, j'avais vraiment envie de faire quelque chose de différemment et je considère qu'après 43 ans consacrés à la profession, voilà, j'étais très légitime pour essayer de faire autre chose dans ma vie.
C'est bien. On va vous présenter le but du podcast et de la commission santé mentale du Conseil des jeunes.
Très bien.
Alors, dans un premier temps, le podcast, on va vous laisser piocher une carte et on vous posera la question correspondante.
D'accord.
Et pour la commission santé mentale, notre but, c'est de déstresser les étudiants par rapport à leur choix d'orientation et par rapport à leurs examens. C'est pour ça qu'on a mis en place des squishies, des balles anti-stress qu'on va distribuer aux étudiants. Ainsi,
très bien,
ils pourront écouter ce podcast pour découvrir qu'il n'y a pas qu'une seule voie pour arriver à un métier.
Ah, non, surtout pas. Surtout pas. Ouais. Donc, il m'appartient maintenant de tirer une carte.
C'est ça.
Vous pouvez vous servir également des cookies et
Merci, vous êtes très gentil, mais un maire, ça doit aussi se nourrir raisonnablement, même si je suis très gourmande. Donc, je me retiendrai, je l'emmènerai peut-être pour cet après-midi.
Ça marche, c'est un membre du Conseil des jeunes qui nous a préparé.
Voilà, très bien.
Alors, comment gérez-vous le stress?
On va dire, je pense que pour gérer le stress, il y a des techniques hein, pour gérer le stress, donc des techniques respiratoires. Hein,
oui, la cohérence cardiaque.
Voilà, et puis dompter sa respiration, faire plutôt une respiration ventrale, parce qu'on a tendance à respirer par la bouche, le nez et tout ça, et on fait... Au bout d'un moment, il ne vous aura pas échappé qu'effectivement, en tant que maire, on fait des discours. Donc parfois, il arrive qu'on fasse un discours pendant 20 minutes, 25 minutes, voire plus. Donc il faut pouvoir à la fois gérer son stress, parce qu'on est face souvent à des gens qu'on ne connaît pas. Donc c'est toujours un peu stressant. Et en même temps, il faut pouvoir maîtriser sa respiration, parce que sinon, on a le souffle coupé très très vite. Donc une des techniques que moi je pratique, c'est la respiration. Parce que je pense que quand on apprend avec des techniques, mais de vraies techniques hein, à respirer, déjà ça évacue une partie du stress. Après, gérer le stress, c'est peut-être aussi d'inverser la chose. Au lieu d'avoir un stress négatif, on essaye de produire un stress positif. Alors comment on fait ça ? Bah, tout simplement en me disant, je me dis souvent quand je suis devant des parterres, il m'est déjà arrivé de prendre la parole devant 3000 personnes par exemple, je me dis, eh ben, je suis là pour apporter quelque chose à ces gens-là. Seront-ils contents de ce que je leur apporte? Ils me le diront après. Mais en attendant, j'ai cette envie de donner. Donc je suis dans une forme de stress positif. Si j'étais dans un stress négatif, je me dirais, oh mon Dieu, pourvu qu'ils ne se mettent pas à me huer au bout de 5 minutes. Voilà. Je ne sais pas si j'ai expliqué un peu le processus. Le processus est beaucoup plus compliqué et je pense qu'un médecin l'expliquerait beaucoup mieux que moi. Après, ce qu'il faut faire aussi, il faut faire des exercices de respiration. C'est ce que je fais le plus souvent avant que je prenne la parole, pour bien dégager aussi la cage thoracique qui va me permettre de respirer et de tenir. Mais je crois que moi, j'ai surtout cette tendance à inverser, à ne pas considérer que le stress négatif doit remonter. Par contre, je privilégie le stress positif qui fait que vous restiez dans ce que vous devez faire, qu'en même temps, vous avez envie de donner quelque chose aux gens qui sont en face, qui eux-mêmes le ressentiront aussi. Voilà. Donc, voilà. Ne considérons pas que le stress est toujours négatif. Un stress peut être positif. Ça nous aide à voir les choses, ça nous aide à dire les choses, à faire les choses. Mais je considère qu'un minimum de stress est important. Parce que si on affronte des gens, entre guillemets, pas affrontement dans le style bataille, parce qu'on n'est pas sur un ring de boxe, si on va vers les gens et on n'a pas ce minimum de stress, ça veut dire aussi pour moi qu'on ne respecte pas forcément les gens qu'on a en face de soi. Si on y va avec un minimum de stress, on se dit « je dois être capable de leur donner le meilleur de moi-même ». Et c'est comme ça que je réagis et que j'inverse la tendance entre stress négatif et stress positif.
D'accord, merci. Et c'est quelle partie du métier de mère qui vous stresse le plus de manière négative, on va dire ?
Alors, c'est de manière négative, c'est plutôt l'appréhension de choses qui pourraient arriver aux Mulhousiens. Je ne cache pas qu'au moment de Covid, nous ne savions pas ce que c'était. Donc j'étais effectivement dans une forme de stress qui était plutôt un stress négatif, puisque je rappelle quand même que ça a démarré dans un quartier à Mulhouse, à Bourg-Tillère, pour ne citer que ce quartier-là, d'ailleurs un quartier que j'aime particulièrement parce que j'ai été longtemps référente sur ce quartier. Donc on peut être dans une forme de stress parce qu'on est obligé d'appréhender quelque chose qu'on ne connaît pas. Dans le métier, c'est pareil, on ne sait pas ce qui vous attend. Mais très vite, j'ai compris que j'étais à peu près seule, avec bien sûr mon équipe autour de moi, puisqu'à l'époque, on continuait à travailler. Moi, je ne suis pas restée chez moi pendant le confinement, je suis venue travailler, parce qu'il fallait quand même faire tourner un minimum les services. Par exemple, un service de l'état civil ne pouvait pas ne pas tourner, puisqu'on déclare les naissances, on déclare les décès. Alors évidemment, les mariages étaient suspendus, parce que ça, c'était quelque chose qu'on pouvait remettre. Par exemple, le nettoyage des rues, même si ça dépend pas que de la commune, mais aussi de l'intercommunalité, il fallait continuer à ramasser les poubelles parce que les gens sortaient une heure par jour, mais ils généraient quand même des déchets. Il fallait éliminer les déchets des gens qui étaient produits chez eux à la maison. Donc la collectivité ne pouvait pas s'arrêter. Donc j'avais une espèce de task force autour de moi, une dizaine de personnes, et on se réunissait tous les jours, évidemment avec les précautions d'usage, masques, distanciation. Et on se réunissait tous les jours à midi. On faisait le point de la situation. Voilà, qu'est-ce que nous avons fait ? Qu'est-ce qui reste à faire ? Parce que je rappelle que la plupart de nos collaborateurs sont rentrés chez eux. Oui. Voilà. Donc, par contre, il y avait malheureusement, il y avait beaucoup de décès à l'époque, puisqu'on ne savait pas toujours comment soigner ce Covid non plus les premiers temps. Donc il fallait des services d'état civil, il y a les services du cimetière qui devaient fonctionner, il fallait pouvoir aussi faire en sorte que les familles puissent accompagner leurs défunts. Voilà, tout ça c'était quelque chose qui nous incombait. Mais oui, Covid a été pour moi pendant quelques heures, je dois dire, un stress négatif. Parce que je ne savais pas comment appréhender la situation. Après, très vite, on se renseigne, on va voir les médecins. J'étais montée à l'hôpital pour rencontrer des médecins. À l'époque, j'avais Jean Rotner à côté de moi, qui est quand même un ancien urgentiste, qui m'a expliqué scientifiquement et médicalement comment les choses se passent. Et on a fini par comprendre que c'était grave, qu'il fallait mettre des choses en place. Et très vite, ce fameux stress négatif s'est transformé en stress positif. Mais j'ai du mal à le dire, parce qu'on parle de vie humaine. Voilà, donc pour moi, la question de la perte des vies humaines restait un stress négatif pour moi, bien sûr. Mais une fois de plus, je me suis dit, tu es maire de Mulhouse, les Mulhousiens comptent sur toi pour essayer de gérer au mieux cette ville, pour qu'elle ne tombe pas, qu'il n'y ait pas de choses très graves qui se passent. Évidemment, on a beaucoup travaillé avec le préfet, puisque le préfet est le représentant de l'État au niveau local, préfet et sous-préfet d'ailleurs. L'ARS, qui est quand même la structure de santé de l'État, qui nous donnait les consignes, ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire, les précautions à prendre. Mais voilà, mais très vite, ça s'est transformé en quelque chose. Voilà, il faut faire avancer les choses, il faut faire avancer la locomotive, elle n'a pas le droit de s'arrêter. Voilà. Donc, voilà, par exemple, une situation où au départ, c'était un stress négatif, mais qu'il fallait transformer en quelque chose de positif, parce que c'est ce que les Mulhousiens attendaient de moi.
Oui, vous ne vous laissez pas arrêter par le stress.
Ah non, non, il ne faut surtout pas. Le stress ne doit pas être quelque chose qui soit en permanence générateur d'angoisse, parce que là, on perd tous ses moyens. Au bout d'un moment, même votre organisme vous montre qu'il est en stress. Alors, il y a des gens qui font de la tachycardie, il y a des gens qui font des éruptions cutanées, il y a des gens qui ont des problèmes musculaires, des choses comme ça. Donc, je pense qu'il ne faut jamais laisser l'opportunité au stress, comment dirais-je, de vous empêcher d'avancer, en fait. Voilà.
D'accord. Merci beaucoup. Je pense que vous pouvez piocher une autre carte.
Je pioche autre chose. Si je suis trop long, vous me le dites. Ah ah.
Merci. Comment avez-vous choisi votre orientation ?
Alors, je l'ai déjà un peu effleuré tout à l'heure. Hein. J'ai été élevée par une maman seule rapidement. Mon papa est décédé. Donc, voilà, pour des raisons à la fois familiales, pour des raisons, comme je l'ai dit, à mon époque, les bourses, il n'y en avait quasiment pas. Ça n'existait quasiment pas. Donc j'ai dû faire à la fois un choix de raison, mais malgré le choix de raison, le fait de faire le choix d'apprendre un métier, pour moi, était très valorisant parce que ça prouvait que j'étais en capacité d'apprendre un métier et par la suite de vivre de ce métier que j'avais appris. Donc c'était un choix à la fois familial, un peu contraint, mais finalement quelque chose, une fois de plus, j'ai transformé ça en quelque chose de positif puisque j'en ai fait mon métier toute ma vie. Ce qui ne m'a pas empêché, à côté de mon métier, de faire d'autres choses, y compris l'engagement.
Et pourquoi exactement ce métier de coiffeuse ?
Parce que j'aimais beaucoup la coiffure. J'avais, je sais pas, c'était quelque chose où je sentais que j'avais une appétence, où j'avais un goût pour la coiffure. Je sentais que j'aimais toucher le cheveu, j'aimais manipuler le cheveu, j'aimais embellir les gens. Voilà, c'était parti de cette idée-là. Donc très vite ça s'est présenté à moi, je ne me sentais pas du tout mécanicienne, à l'époque il y en avait déjà mais très peu chez les femmes bien sûr puisque c'était un métier très masculin, j'étais pas douée par exemple pour la menuiserie, pour des choses comme ça, c'est aussi des métiers que j'aurais pu apprendre la pâtisserie, voilà, mais je sentais que le métier, le fait d'apprendre ce métier de la coiffure pour moi était, s'imposait presque comme un choix premier.
Ok, donc même si c'était un choix de raison, c'était aussi beaucoup un choix de cœur.
Mais bien sûr, bien sûr. Parce que si on ne fait qu'un choix de raison, au bout d'un moment, on arrête. J'ai quand même montré... En fait, moi, j'ai toujours eu cette appétence de vouloir en apprendre davantage. Et en fait, j'avais choisi un métier où je pouvais passer des examens professionnels pour monter en compétences au fur et à mesure de ma vie professionnelle. Et même si c'était un choix familial, c'était quand même un choix de cœur, un choix d'envie, un choix d'essayer. Et j'ai été très claire avec toute ma famille au départ en disant si finalement la coiffure ce n'est pas le métier qui me va le mieux ou là où je peux, comment dirais-je, développer un savoir-faire, je serai honnête avec moi-même et je changerai de métier. Parce qu'on a le droit de changer de métier aussi.
D'accord.
Ça a l'air de vous laisser dubitatif.
Non, mais justement, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'un métier, c'est une ligne droite.
Pas du tout, mais pas du tout. Un métier c'est avant tout une aventure humaine. Alors, vous me direz, c'est un peu réducteur ce que je dis là, parce qu'il faut quand même des compétences pour exercer un métier. Mais moi, je connais foule de gens autour de moi qui, dans leur vie professionnelle, et je pense que moi, je suis un dinosaure, entre guillemets, puisque j'ai exercé le même métier pendant 43 ans. Ça n'arrive plus. C'est pas possible. Le monde change. La technologie change. Les envies changent. La façon de vivre. Regardez, pour preuve, après Covid, combien de gens ont fait le choix de vivre différemment, de quitter les villes, d'aller à la campagne, d'avoir peut-être un métier qui leur permette d'avoir plus de loisirs, plus de temps pour la famille. Mais tout ça, il faut le respecter. C'est des choix de vie. Mais ça reste avant tout une aventure humaine. Et celui qui détermine son aventure humaine, c'est bien l'être humain au départ. Et moi, je considère qu'actuellement, on n'exerce plus la même profession pendant des années. J'ai eu la chance de pouvoir le faire, de le faire avec beaucoup de bonheur. Mais voilà, je pense que je suis une forme de dinosaure en la matière.
D'accord, merci beaucoup.
Et qu'est-ce que vous pouvez dire pour le système scolaire qui dit à un élève de choisir son métier à 15 ans, qui va pratiquer ce métier pendant ses 30 ans ?
Non, je pense pas. Je pense que le système, enfin, au niveau de la scolarité, on a compris aussi, alors assez récemment d'ailleurs, qu'effectivement, comment dirais-je, qu'il fallait au départ donner un socle à une personne. Moi, je dis toujours, un élève, un jeune, a besoin d'un socle. Il faut apprendre à lire, il faut apprendre à écrire, il faut apprendre, même si on a toutes les applications qu'on veut sur nos smartphones, nos iPhones et tout le reste, il faut apprendre à calculer un minimum. Et moi, je considère que l'école doit vous donner ce socle. Après, bien évidemment, vous arrivez à un moment de votre scolarité, vous êtes obligé de faire un choix. C'est normal, parce qu'on n'a jamais vu une formation où on fait un semestre de droit, un semestre de médecine, un semestre d'autre chose. Ce n'est pas possible. Mais moi, je considère que le rôle de l'école, c'est déjà de donner des fondamentaux, ce qu'on appelle des fondamentaux à quelqu'un, un socle. Et après, la personne, avec ce socle qu'elle a eu, vous savez, on a une chance inouïe en France, et dans d'autres pays, ce n'est pas toujours le cas. Mais une chance inouïe, c'est qu'on a des passerelles entre les formations. C'est-à-dire, on peut très bien, avoir, à 15 ans, ou à 16 ans, ou à 17 ans, on peut avoir un choix premier. Voilà, je veux être avocate. Voilà. Puis au fur et à mesure, vous avancez dans votre formation et vous découvrez d'autres choses. Et en fait, au bout d'un moment, vous dites, ben non, finalement, je voulais être avocate au départ, je dis n'importe quoi en droit international. Et puis j'ai fait des rencontres, j'ai rencontré des gens, j'ai lu des choses, j'ai vu des choses, j'ai fait des stages, j'ai fait des formations et je me rends compte que finalement, j'ai envie d'être magistrat. Mm-hmm. Et ben voilà, vous avez la possibilité, avec le système français, vous avez des passerelles qui vous permettent à un certain niveau de passer d'une formation à l'autre. Et vous pouvez carrément changer complètement de formation. Enfin, moi, j'ai une amie qui était... Alors, j'ai une amie qui est fille d'avocat, petite fille d'avocat. Donc, évidemment, il a fallu qu'elle soit avocat, parce que papy l'était, son papa l'était, voilà. Et le jour où elle a obtenu son diplôme, elle a pris son diplôme, elle l'a donné à son papa, elle lui a dit « Tu as voulu que je sois avocat, je suis avocat. Et maintenant, j'ai décidé que je deviendrai graphiste pour livres pour enfants. » Mais vous imaginez le geste fort de cette femme. Elle a compris une fois pour toutes qu'elle avait fait plaisir à ses parents et qu'elle n'avait peut-être pas le degré de maturité de se rendre compte qu'elle avait fait plaisir à ses parents parce qu'elle était dans une lignée de juristes. Et quand elle a eu son diplôme, elle s'est dit « Mais finalement, ce n'est pas ce que je veux faire. » Je veux faire du graphisme, j'ai envie d'écrire des livres pour enfants, j'ai envie d'illustrer des livres pour enfants. Et elle-même, quand elle a eu des enfants, elle a dit, le jour où mon fils ou ma fille m'annonce qu'ils veulent être clowns, eh ben, ils seront clowns. Voilà. Et j'ai trouvé ça mais juste génial, je trouve ça géant de pouvoir faire les choses comme ça. Et je pense qu'on est dans une société, on est dans une organisation du pays qui nous permet de faire des choses comme celle-là.
Il faut beaucoup de courage pour faire ce qu'elle a fait.
Absolument.
Et j'avais une question. Que diriez-vous aux gens qui bloquent parce qu'ils ont peur de reprendre leurs études? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'une fois qu'on a arrêté ses études, on ne les reprend pas, on n'arrive pas à retourner dans le rythme étudiant, ce genre de choses.
Moi, j'ai une formule très simple. Vivez vos rêves. Je crois que la vie est tellement courte... Et comme dit, j'ai 66 ans, donc j'ai une grande partie de ma vie qui est derrière moi. Il faut vivre ses rêves. Il faut pas hésiter à se... À un moment donné dans sa vie, on a des envies d'autre chose. Il faut aller au bout de ses rêves. Parce que ce qui est important surtout, c'est d'être honnête avec soi-même. Quel est l'intérêt de s'engager dans une formation, dans une filière ? Et de dire, je l'ai choisi maintenant il y a 3 ans, il faut que j'aille au bout de mon cursus. Non, personne ne dit qu'il faut aller au bout du cursus. Alors c'est vrai qu'il y a des réalités parfois par rapport à un entourage familial, une pression de la société aussi. Hein. N'oublions pas la société qui met beaucoup de pression aussi aux gens-là. Mais moi je dirais à tout le monde, vivez vos rêves. C'est ce qui est essentiel dans la vie. Si vous êtes heureux parce que vous vivez au milieu de la forêt, dans une cabane avec un chien, un chat... un compagnon et que vous cultivez des choux, parfait. Il faut vivre ses rêves. Et c'est ça qui est important dans la vie. Parce que j'ai rencontré tellement de gens qui ont fait des études supérieures, qui sont mais bardés de diplômes et finalement qui ne sont pas heureux dans la vie. Qu'est-ce qui est important, c'est d'être heureux dans la vie. Voilà. Il y a des gens qui sont heureux quand ils ont, je sais pas, un grand jardin chez eux. Il y a des gens qui sont heureux quand ils possèdent une grosse voiture. Voilà, il y a Je pense que l'être humain a des désirs différents, mais ce qui est important, c'est d'assumer ses propres envies, ses propres désirs. Et voilà, cultivez vos rêves et assumez vos rêves, c'est ce qu'il y a de plus joli dans la vie.
Merci beaucoup. On vous laisse placer une nouvelle carte.
Et je pioche. Voilà.
Merci. Alors, qui vous a inspiré à l'époque? Qui vous inspire aujourd'hui?
Qui m'a inspiré à l'époque? Ben, quelqu'un qui m'avait inspiré. Mais à l'époque de ma scolarité ou à l'époque où je suis rentrée dans la vie active, dans la vie professionnelle?
C'était pas les plus jeunes.
Quand j'étais plus jeune, ma grand-mère était une grande source d'inspiration. Ma grand-mère était née en 1896. Voilà, vous voyez le moment. Donc ma maman, vous connaissez aussi l'histoire de l'Alsace. On a toujours eu, on va dire, des époques très chahutées au niveau politique, au niveau guerre. Donc ma grand-mère, finalement, n'a jamais été complètement française ni complètement allemande. Ma grand-mère n'a jamais su vraiment lire et écrire le français. Elle le comprenait, mais j'ai changé en alsacien avec elle. Par contre, ma grand-mère était une dame qui a accepté son sort. Elle a accepté qu'elle n'a jamais réussi à être totalement française ou totalement allemande. C'était quelqu'un qui était dans une forme d'acceptation de ce que la vie lui apportait. Elle était veuve à 43 ans avec 3 enfants. Elle a accepté son sort, mais elle s'en est toujours sortie. Et pour moi, ma grand-mère était un vrai pilier, une vraie source d'inspiration. Et elle était fille d'agriculteur dans le Sungo. Donc elle avait ce bon sens de la terre. Et elle m'a beaucoup inculqué aussi ce bon sens, puisque ma maman, du coup, comme elle m'a élevée aussi seule pendant une bonne partie de ma vie, ma maman est allée travailler, c'est ma grand-mère qui me gardait. Parce qu'elle ne travaillait pas, forcément. Les femmes nées en 1896 ne travaillaient pas, ou très peu d'ailleurs. Et en fait, ma grand-mère, elle a toujours été pour moi une source d'inspiration. Elle a toujours su rebondir sur les opportunités qui se présentaient à elle. Par exemple, elle était douée pour la couture. Nous avions une institutrice qui habitait dans la rue et elle faisait de la couture pour l'institutrice. Et elle-même, l'institutrice, lui apprenait un peu à écrire et à parler français. Voilà. Maintenant, on crée des associations pour ça. À l'époque, ça se faisait naturellement, cette solidarité entre habitants, entre gens d'un même quartier, par exemple. Et pour moi, elle était toujours en permanence dans une forme de résilience. Mais elle était heureuse. Elle était heureuse d'être dans la résilience. Elle était heureuse d'être à sa place, elle était heureuse d'être dans sa vie, ce qui ne l'a absolument pas empêchée de faire des choses absolument extraordinaires.
Oui, il faut prendre ce que nous donne la vie.
Mais exactement, essayer d'en faire au mieux, enfin, toujours prendre ce qui est bon pour nous, je ne dis pas qu'il faut tout prendre, hein. On prend ce qui est bon pour nous, mais être dans cette forme de résilience. Ma grand-mère avait pour coutume de dire, écoute ma fille, ne regarde pas ce qui est mieux ailleurs. Regarde ce qui est pire ailleurs. Et pour moi, c'est devenu vraiment une leçon de vie. C'est vraiment un fil conducteur tout au long de ma vie.
Et du coup, qui vous inspire aujourd'hui?
Qui m'inspire aujourd'hui? Il y a plein de gens. Vous savez, moi, volontairement, je ne veux pas citer de noms de personnes célèbres, parce que ça serait trop facile et ça fait un peu kitsch. Mais ce que je tenais à dire, c'est que dans l'engagement qui est le mien au quotidien des Mulhousiens, je rencontre des gens absolument extraordinaires dans tous les quartiers de la ville. Voilà. Pour moi, des exemples, c'est parfois des exemples, même au quotidien, de gens que je rencontre, de gens qui me témoignent de certaines choses, de gens que je ne connaissais pas, qui vivent à Mulhouse, qui ont un parcours extraordinaire, des gens qui s'investissent pour les autres. Moi, je suis très sensible à tout ce qui est ce côté humain, vous l'aurez compris, et en même temps, tout ce côté solidarité par rapport aux autres. Et je peux vous dire que la ville de Mulhouse... Il y a des gens extraordinaires dans des quartiers, dans des rues, qui font des choses qu'on ignore. Et pour moi, les vrais héros du quotidien, ce sont ceux-là. Alors évidemment, j'étais comme tout le monde au moment de Covid. Pour moi, les héros du quotidien, c'était les médecins, les infirmières, les aides-soignants, tous les personnels qui travaillaient pour, voilà, pour préserver la santé des autres. Mais pour moi, les vrais héros du quotidien, c'est ces gens-là qui font des petites choses au quotidien, qui prennent d'autres en charge. Voilà, je trouve ça absolument extraordinaire. Et je suis toujours très, très heureuse de rencontrer ces gens-là. Mais ce n'est pas des gens célèbres, ce n'est pas des gens qu'on connaît, ce n'est pas des gens qu'on lit dans les journaux. Pour moi, c'est d'autres. Les héros du quotidien, c'est ailleurs.
Oui, les héros ne portent pas toujours de cap. Oui.
Ah non, et loin de là, loin de là. Et j'ai le bonheur de faire ce que je fais au quotidien et de rencontrer ces gens-là.
C'est une vraie joie de pouvoir faire ça, je pense.
Absolument. Vous savez, on a. Moi, je. Comment dirais-je ? C'est pas un regret. Mais toutes ces questions d'influenceurs, d'influenceuses, je trouve que c'est parfois un peu surfait. Mm-hmm. Hein ? Qu'on s'identifie. Moi, j'ai été jeune fille comme tout le monde. On s'identifiait à l'époque à nos chanteurs préférés, à nos chanteuses préférées. C'est normal. On cherche une image, on cherche à se comparer, on cherche à se rattacher à une image. Parfois, c'est par la religion, parfois, c'est par la culture, parfois, c'est par le sport. Alors, regardez nos vedettes sportives, là, on va beaucoup en parler dans l'année 2024. Donc, qu'un enfant cherche à se rattacher à une image, c'est normal. Mais plus on avance en âge, plus on se dit que les vrais héros ne sont pas là. Voilà. Et je pense, voilà, on peut tous, dans notre environnement proche, dans notre quotidien, se dire... J'ai de la chance de connaître telle ou telle personne. Et c'est une chance.
Personnellement, je pense, quand vous dites tout ça, à un de mes professeurs qui m'aide beaucoup, en tout cas personnellement.
Bien sûr. Mais les professeurs, moi, je les admire beaucoup parce que je considère qu'ils font un métier très difficile. Ils ont aussi l'obligation de donner à la fois ce socle, mais aussi permettre aux gens de s'émanciper par la pensée. Et ça, c'est primordial dans notre société. Regardez à quel point les gens peuvent être tributaires des autres ou de la société. Et le fait d'avoir un professeur, d'avoir un enseignant, d'avoir un auteur, même un livre peut émanciper quelqu'un. Et le fait d'avoir ces gens-là autour de soi, et vous avez raison, je m'émancipe par la pensée. Donc j'apprends à penser par moi-même. Et c'est le plus grand trésor qu'on peut avoir. Il n'y a pas d'autre trésor plus grand que celui-là. Si, l'amour peut-être. Mais ça, c'est un autre sujet.
D'accord, merci beaucoup. On vous laisse boire.
Un petit coup, voilà. Je suis curieuse, ça va. Ah.
Comment vos parents ont perçu votre choix d'orientation ?
Oui, bon, j'en ai déjà parlé lors de l'interview, je ne vais peut-être pas m'apesantir là-dessus. Mais en tout cas, j'ai eu une maman, puisque c'était ma maman, une fois de plus, qui a procédé, on va dire, sur un temps très long à mon éducation avec ma grand-mère. Et ils ont approuvé mes choix. La seule chose que ma maman m'avait dite quand je suis rentrée en apprentissage, c'est si tu choisis un métier, tu as le droit de renoncer à ce métier, tu as le droit de constater que tu n'es pas faite pour ce métier, mais tant que tu exerceras ce métier, il faut que tu le fasses bien. Ne fais pas les choses en dilettante, fais les choses bien, de façon constante. Si ça ne fonctionne pas par rapport à ton choix, on peut voir après. Voilà. Mais elle me demandait d'être cohérente avec mon choix et de bien le faire à partir du moment où j'avais choisi de faire un métier.
Oui, donc ils vous ont toujours soutenu.
Ah oui, oui, bien sûr. Oui,
oui, libre. Bien sûr.
Oui, j'ai toujours été libre, bien sûr.
Parce que c'est pas forcément toujours le cas.
Oui, malheureusement, c'est pas toujours le cas. Et je trouve ça dommage parce que je connais peu de gens. Qui peuvent exercer un métier sur un temps long sous le coup de la contrainte. Mm-hmm. Alors soit la personne elle craque mentalement, physiquement, soit il y a des dérives parce qu'elle s'en sort pas. Et on en revient à ce qu'on s'est dit tout à l'heure aussi sur tous ces phénomènes, et on voit qu'ils montent en puissance, surtout chez les plus jeunes, des problèmes psychiques, hein, mm-hmm. Faut les appeler par leur nom, parce que c'est un problème psychique. Et là aussi, si on sent qu'on n'y arrive pas par soi-même, ben il existe des thérapeutes. Et il y a quelques années, le fait de dire je vais voir un psychologue, un psychiatre, oh là là, mais quel événement quoi. Voilà. Et moi, je conseillerais à tout le monde, à partir du moment où on n'arrive pas comment dirais-je, on sent qu'on est bloqué dans sa vie, qu'on n'arrive pas à avancer, qu'on n'est pas bien dans sa vie, les thérapeutes existent, il faut les consulter.
Après, il y a des maladies aussi.
Absolument, il y a des maladies également, oui, bien sûr. Mais moi, je considère qu'on a la chance d'être dans un pays très évolué au niveau médical aussi. Voilà. Alors, il y a des maladies qu'on ne peut pas traiter. Mm-hmm. Par contre, il y a des maladies où on peut améliorer le quotidien des patients. Mm-hmm. Hein, voilà. Mais je pense qu'il ne faut pas hésiter non plus à consulter plusieurs médecins. Parce que je pense que c'est une sage décision, parce que voilà, nous deux on peut se plaire, on pourrait ne pas se plaire, et donc je m'autorise aussi à changer de médecin si je sens que le médecin que j'ai en face de moi, ou le thérapeute, hein, ça peut être un thérapeute, ne convient pas à ce que j'attends de lui. Ça, on a le droit de le faire aussi. Voilà. Mais je pense qu'il est impératif, quand on se rend compte qu'on n'est pas à sa juste place, qu'on n'est pas bien dans sa propre vie, je crois qu'il y a une seule personne, vous savez, pareil, c'est un peu ma grand-mère, ma référence, qui me disait toujours, la personne la plus importante de ta vie, c'est toi. Et tu ne pourras jamais rendre les autres heureux autour de toi tant que toi-même, tu ne seras pas bien. Et ça a été une vraie leçon aussi pour ma vie.
Votre grand-mère était très sage.
Très sage, et ce n'était pas une universitaire, et ce n'était pas quelqu'un qui a fait de grandes écoles. Par contre, c'était quelqu'un qui lisait beaucoup. Elle aimait beaucoup lire.
Oui, les études ne font pas tout.
Voilà. Voilà. Je pense qu'il faut... et là aussi, il y a peut-être un reproche que je fais un petit peu dans notre organisation de vie. C'est de ne pas aider les gens à gérer l'échec. Parce que pour moi, l'échec construit.
Oui.
Voilà. Si on prend le côté positif de l'échec, on fait tous des échecs. On a tous des échecs, moi aussi, hein. Des mauvais choix, des choix inopportuns, j'aurais pu faire différemment, je ne l'ai pas fait, j'ai hésité, voilà. Mais je pense que notre société doit apprendre aussi aux gens à gérer l'échec. Parce que l'échec peut être constructeur. Voilà. Et je crois qu'on est dans une société de la performance, on est dans une société où tout doit fonctionner, et on n'apprend pas à l'école, on n'apprend pas à l'université à gérer les échecs. Or, l'échec fait partie de la vie de quelqu'un.
Oui, on parle de nos réussites, mais pas de nos échecs.
Exactement.
C'est Manu.
Voilà. Alors même que quand on prend certains auteurs qui écrivent des choses sur l'échec, mais c'est impressionnant, quoi. Et vous imaginez la construction psychologique de quelqu'un qui subit un échec, qui arrive à rebondir et qui arrive à se construire derrière. Mais c'est une victoire. Mmh. Voilà. Et moi, je trouve que notre société n'apprend pas à gérer l'échec. Et c'est dommage. Parce que l'échec fait partie de la vie et du quotidien.
Pour moi, quand on est dans un échec, il ne faut surtout pas se dire qu'on est seul.
Voilà. Et j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Et vous avez tout à fait raison. Vous avez sans doute des gens autour de vous qui peuvent vous apporter une piste de réflexion. Vous avez des thérapeutes, vous avez des médecins. Il faut faire appel à ces gens-là. Ces gens-là sont formés pour ça. Voilà. Évidemment, il ne faut pas aller voir les charlatans ou des choses qu'on vous fait miroiter aussi. La parole magique, la pierre magique, la poudre magique, et puis je ne sais pas quoi encore. Hein. Non, il faut s'adresser à des gens qui sont formés pour ça. Mais il ne faut pas hésiter à admettre un échec et rebondir après son échec. Mais on n'arrive pas toujours à rebondir tout seul. Il faut se faire aider. Et c'est normal.
Après, sans forcément aller voir un thérapeute, juste parler peut suffire aussi.
Absolument, oui, il y a des groupes de parole, il y a des gens, même des proches. Hein. Enfin, je crois qu'on a tous dans nos vies des gens dont on est plus ou moins proche, à qui on peut échanger sur ces thématiques-là, bien sûr. Bien sûr. Mais il faut toujours que la personne, même si elle a subi un échec, elle doit garder la maîtrise de sa vie. Et ça, c'est important aussi. On peut... demander à quelqu'un qu'est-ce que t'en penses, mais vous savez, moi je dis que la frontière entre la manipulation, le conseil, je prends dans le désordre, hein, le conseil, la manipulation, la frontière est tellement ténue, parce que quelqu'un qui est en état de faiblesse peut très vite se laisser embarquer dans des choses, peut très vite se laisser dépasser par les choses. Donc ça aussi, ce qui est important, c'est d'essayer de garder la maîtrise de sa vie. De se dire, quoi qu'il se passera, quel que soit le conseil qu'on me donnera, quelles que soient les personnes que je verrai, je reste maître de ma vie et je prendrai le temps qu'il faut pour essayer de comprendre ce qui m'arrive et pour essayer de trouver par moi-même la solution.
Oui, s'écouter avant d'écouter les autres.
Mais oui, bien sûr. Mais bien sûr, c'est primordial. Et on a le droit de ne pas être bien. On a le droit de ne pas être joli. On a le droit de ne pas être intelligent. On a le droit de ne pas être à la page tous les jours. On a juste droit à ces faiblesses normales d'être humain.
Merci pour ce conseil.
Allez-y.
Est-ce qu'on peut, je vous en fiche.
Je tire encore une carte ?
Oui.
Allez, on y va.
Que diriez-vous à la jeune de 17 ans que vous étiez ?
Continuez, persiste. Voilà. Il faut, quand on a 17 ans, il faut... je reviens à ce que j'ai dit, parce que vous voyez, du coup, ça montre quand même que je suis cohérent dans ce que je dis. Il faut vivre ses rêves. Quand on a 16 ans, quand on a 17 ans, quand on a 18 ans, on est jeune, on a envie de faire des choses, il faut les faire. On ne peut pas forcément les faire sur le moment, parce que parfois, je dis n'importe quoi, on a envie de faire un voyage au Népal. Évidemment, ce n'est pas quelque chose qui se programme en prenant un ticket de bus au Léa, évidemment. Quoique, ça peut être le premier truc pour aller à la gare, ceci dit. Voilà, mais à cet âge-là, il faut s'autoriser à vivre, il faut s'autoriser... Alors, je mettrais peut-être un bémol en disant s'autoriser à vivre, mais pas à n'importe quel prix et en ne se mettant pas en danger. Mmh. Voilà, ça c'est peut-être le bémol que je mettrais. Mais quand on a un projet, il fallait, au bout de ses projets, il faut vivre ses rêves. On ne vit pas ses rêves à 60 ans. Non, on vit ses rêves à 15, 16, 17, 18 ans, voilà. Mais comme dit, avec toutes les précautions quand même pour ne pas se mettre en danger. Parce qu'une fois qu'on est dans l'engrenage du danger, c'est très difficile de s'en sortir.
Mais c'est possible.
Mais c'est possible. Rêver à 17 ans, c'est possible. Mais on avait tous des rêves. Et chacun a un rêve. Moi, ce que je trouve palpitant à cet âge-là, c'est que chacun a un rêve. Mais le rêve est différent par rapport à son voisin, par rapport à son frère, par rapport à sa sœur, par rapport à sa mère, par rapport à son père. Voilà, et je trouve que ça, c'est... Et moi, je pense que quand dans la vie, même quand on fait des études, qu'on est très rigoureux dans ses études parce qu'on a envie d'aboutir à un diplôme, une formation, mais le côté rêve à côté fait qu'on arrive à tenir aussi. Parce que faire des études, c'est exigeant. Faire des études, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'investissement aussi de soi-même. Mais à côté, il faut avoir les rêves. Parce que si vous n'avez pas un rêve à côté, vous ne tiendrez jamais sur la distance pour faire des études dans de bonnes conditions, par exemple. Ou une formation, hein, peu importe.
Oui, c'est un marathon.
Voilà, bien sûr, c'est un marathon. Mais pour tenir dans le marathon, il faut avoir son rêve à côté. Construire son rêve, faire évoluer son rêve. Et en finalité, le réaliser peut-être. Ou pas.
Avez-vous réalisé votre rêve, du coup, de 17 ans ?
Oui, puisqu'à l'époque, je voulais ouvrir mon salon de coiffure. Donc oui, j'ai réalisé mon rêve. Quand j'ai commencé ma formation de coiffeuse, ma première des choses, c'était je veux mon propre salon de coiffure. À l'époque, c'était mon rêve. Oui, je l'ai réalisé. Et c'est pour ça que je n'ai pas de regret d'avoir arrêté à un moment donné pour passer à autre chose. J'avais réalisé mon rêve. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions.
Oui, beaucoup. Merci beaucoup.
Enfin, on vous remercie beaucoup d'avoir pu assister et d'être venu au podcast.
Mais je vous en prie.
Ce fut un plaisir de partager ce moment avec vous.
Un plaisir vraiment réciproque. Moi, je dirais, vous êtes jeune, vous avez la vie devant vous, vous avez fait des efforts. Évidemment, essayez de décrocher les diplômes, c'est toujours mieux avec un diplôme que sans diplôme. Mais même sans diplôme, on peut réussir sa vie. Et il ne faut pas que ça soit une fin en soi. Et je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure, vivez vos rêves. C'est vraiment ce qu'il y a de plus essentiel dans la vie d'un être humain. Et c'est la seule chose qui construit l'être humain. Donc, voilà. Soyez honnête avec vous-même, faites ce que vous avez envie de faire. Que vous ayez envie de vous sécuriser avec des diplômes, je comprends. On est dans un monde aussi un petit peu... Le marché du travail n'est pas forcément le marché le plus facile. Mais avant tout, pensez à vos rêves. N'abandonnez jamais vos rêves. Parce que c'est ce qui vous construit et ce qui vous fera avancer dans la vie.
Merci beaucoup.
Mais je vous en prie.
Et merci à tous de nous avoir écoutés, en espérant vous revoir pour un prochain podcast.